Décryptage, Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Demain s'ouvre à Porto, au Portugal, un sommet social européen. Parmi les questions qui seront à l'ordre du jour, le salaire minimum, la formation, l'égalité femmes-hommes ou encore les conditions de travail. Alors tout cela nous amène, dans Décryptage, à nous interroger sur l'Europe sociale. C'est un concept qui existe depuis la naissance de l'Europe. Où en est-il aujourd'hui? Quels sont les freins? Quelles sont les ambitions dans ce domaine-là? Comment confronter l'Europe sociale à la crise du Covid-19? Eh bien, voilà nos questions ce soir. Bienvenue. Et notre invité est Michel Derdevé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du think tank Confrontation Europe et de la Maison de l'Europe de Paris. D'abord, première question, très générale, très globale, mais très nécessaire selon moi. Comment est-ce que vous définiriez l'Europe sociale?
Je reprendrai volontiers la formule de l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui disait que c'est une boussole destinée à orienter l'Europe vers la protection des travailleurs de l'Union européenne. C'est en fait une démarche qui renvoie à ce qu'est l'Europe, c'est-à-dire une économie sociale de marché. Vous voyez bien que dans ma réponse, il y a le mot social qui est le mot-clé, c'est-à-dire c'est la capacité de voir, y compris en période de crise et surtout en période de crise, comment on peut, à travers une action commune, une action européenne, essayer de protéger l'ensemble des travailleurs de l'Union européenne.
Mais pourquoi on parle d'Europe sociale? Est-ce que l'Europe, devrait pas être sociale? Est-ce que c'est pas la base du projet européen d'être sociale?
Alors c'est à la base du projet européen et en même temps les traités interdisent à l'Union européenne d'harmoniser les législations dans le domaine social. Il y a un paradoxe, on a un article 4 du traité de l'Union européenne qui dit que c'est dans les États que ça se passe et donc en même temps on voit bien qu'il y a des sujets qui doivent être embarqués au niveau européen et c'est d'ailleurs toute la philosophie de Jacques Delors qui en 85 quand il présidait la commission a instauré ce qu'on appelle à l'époque le dialogue de Val-Duchesse, c'est un endroit où il réunissait les patronats européens, les syndicats et où il incitait les partenaires sociaux à penser global et à penser européen.
Alors, preuve que cette idée est loin d'être nouvelle, je propose de revenir à 1988. Écoutez ce que disait à propos justement de l'Europe sociale, le président de l'époque, François Mitterrand. Je vous fais réagir juste après Michel Derdevé.
L'Europe sociale, c'est devenu l'objectif principal en même temps que l'objectif de l'Europe monétaire. On va quand même pas faire uniquement, mais remarquez que je trouve ça très bien qu'il y ait une Europe des patrons. Je trouve ça très bien. On va quand même pas faire que l'Europe des patrons.
Alors Michel Derdevé, 33 ans plus tard, 33 ans après 1988 effectivement, est-ce qu'on a une Europe sociale ou est-ce qu'on a uniquement une Europe des patrons?
François Mitterrand, vous voyez, comme souvent, ce fut le cas avec le président Mitterrand, vous voyez juste, il faut faire une Europe dans laquelle l'ensemble des partenaires sociaux, c'est-à-dire le patronat européen, les syndicats européens, travaillent ensemble, soient imaginatifs, soient à l'écoute de ce que les salariés et plus généralement les citoyens européens souhaitent comme texte, et à partir de là, les institutions mettent en œuvre. C'est ça qui est la spécificité de l'Europe sociale, c'est qu'elle est basée en amont sur un dialogue, des consensus entre les employeurs et les salariés. Il y a une institution européenne, le Comité économique social, qui d'ailleurs incarne ce dialogue paritaire. Et entre nous, ce que disait François Mitterrand à l'époque reste un sujet d'actualité. Le dialogue social en Europe, il doit être mis au premier plan. Ça va être les enjeux, vous l'évoquiez tout à l'heure, du sommet de Porto. Et ça renvoie au fait que l'Europe, ça n'est pas qu'un marché. Hein, ça n'est pas qu'un ensemble d'entreprises. C'est aussi quelque chose qui doit relier les salariés et l'ensemble de l'économie active.
Et pas seulement l'Europe monétaire, comme l'évoquait justement François Mitterrand. Concrètement, est-ce qu'on, pour justement que les auditeurs comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous citer, Michel Derdevé, des exemples d'avancées sociales en Europe?
Oh, il y a eu énormément d'avancées sociales ces derniers temps. On a eu des directives qui ont été adoptées récemment. Je pourrais vous citer droit à l'information et à la consultation des travailleurs, droit de négociation et d'action collective, droit d'accès aux services de placement.
Alors doucement, est-ce que vous pouvez décliner un exemple?
Oh oui, bien sûr. Par exemple, il y a un article 30 qui a été inscrit dans le traité de Lisbonne qui évoque la protection en cas de licenciement injustifié. Mm-hmm. Et tout ça, c'est une initiative européenne. Avoir ce qui est aussi dans le traité de Lisbonne des conditions de travail justes et équitables, c'est quelque chose qui est inscrit dans les textes européens. Donc, vous voyez, souvent on évoque l'Europe qui protège, mais dans les textes, c'est le cas. Après, il faut que ça soit vécu, mis en pratique, et ça renvoie sans doute aux États membres, et là aussi aux partenaires sociaux dans les États membres. Hein, tout n'est pas, tout ne renvoie pas sur uniquement l'Union européenne, mais il y a au niveau de l'Union européenne, et vous l'évoquiez tout à l'heure en ouverture de l'entretien, énormément d'ambitions posées depuis des années, et qui bien sûr, à la sortie de la crise liée au coronavirus, vont être d'autant plus urgentes.
Mais justement, le point que vous soulevez, hein, le fait que finalement le mot de la fin souvent revienne aux partenaires sociaux des États membres, n'est-ce pas le principal frein finalement au développement d'une vraie Europe sociale ?
Ben, ça peut être en tout cas une difficulté. Vous savez, ce qu'on observe un peu partout, on avait l'habitude, encore il y a quelques années, d'opposer des pays du nord de l'Europe qui, eux, étaient des ardents pratiquants de l'Europe sociale, des pays du sud dans lesquels ce concept était plus lointain. Aujourd'hui, même dans les pays du nord de l'Europe, c'est compliqué à faire vivre le dialogue social. Et pourtant, au moment où on va relancer l'économie européenne, où il va y avoir 1 800 milliards d'euros mis sur la table par l'Union européenne pour faire redémarrer l'économie dans les mois qui viennent, on voit bien que le choix des filières stratégiques et le débat sur comment on relance l'économie européenne face à la Chine et aux États-Unis ne peut pas se faire sans que les employeurs ou les salariés et les représentants des salariés soient autour de la table. Et donc, c'est un peu l'enjeu de Porto. Ça va être de voir comment, de manière durable, on associe l'ensemble des corps intermédiaires, que sont les syndicats et les syndicats d'employeurs comme de travailleurs, pour essayer d'avancer.
Alors justement, c'est intéressant parce que vous avez cité les éventuelles fractures, les éventuelles différences en Europe, vous avez cité le Nord et le Sud. On parle souvent de l'Est et de l'Ouest. Je voudrais vous faire écouter un extrait sonore de l'ancienne ministre du Travail, ministre française du Travail, Muriel Pénicaud, qui s'exprimait au soir de l'accord sur une révision de la directive de 1996 sur les travailleurs détachés. Alors, vous ne l'avez pas évoqué, mais c'est une des avancées souvent évoquées en matière sociale. Hein. Je rappelle pour nos auditeurs, les travailleurs détachés, ce sont les employés d'un État membre de l'Union européenne détachés pour aller travailler dans un autre pays de l'UE, pour éviter ainsi l'abus de main-d'œuvre à bas coût, notamment le principe du « à travail égal, salaire égal ». Et écoutez justement ce qu'en disait Muriel Pénicaud, ex-ministre du Travail, au soir de cet accord. Et ce qu'elle retenait en premier, bien, c'était la cohésion européenne.
C'est un grand pas vers l'Europe sociale. Une des grandes satisfactions de ce soir, c'est qu'il n'y a pas de fracture Est-Ouest. Quand vous regardez les votes, il n'y a pas de fracture géographique. Il y a d'abord une majorité très large dans ce sens-là, et aussi bien avec des pays de l'Est que de l'Ouest. Je pense que ce que j'ai senti aujourd'hui, au fur et à mesure des 12 heures de négociation, c'est que oui, il pouvait y avoir une convergence forte vers le fait que l'Europe doit permettre un libre marché, mais elle doit aussi protéger ses salariés et amener une concurrence équitable.
Michel Derdevet, est-ce que justement sur cette question d'Europe sociale, on retrouve les fractures habituelles de l'Union européenne, par exemple avec l'Europe de l'Est, la Hongrie notamment, et l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne ?
Oui, sans doute, mais en même temps, il faut garder le cap. Et le cap, c'est de raisonner de manière quand même unitaire. Par exemple, il est important que dans les questions de dialogue social, on inclue la question de l'égalité de genre, qui est quand même fondamentale et qui n'est pas uniquement un projet français ou allemand, mais qui doit être un projet européen. Quand on parle de réduction des inégalités, il faut l'inscrire, bien entendu, dans les textes. Et j'espère, de ma fenêtre, que dans les conclusions du sommet de Porto, cette notion sera intégrée. Quand on parle de directive salaire minimum, vous voyez bien que ça s'applique dans l'ensemble des pays européens, non pas avec le même salaire dans tous les pays, mais la référence à un plancher permettant d'avoir une vie décente. Quand on parle de droit individuel à la formation, ce qui est un des domaines dans lequel la France est assez en avancée, Muriel Pénicaud aurait pu en parler, là aussi c'est quelque chose qu'il faut généraliser à l'Europe. Donc vous voyez, il y a des différences culturelles, on l'a vu, ces derniers temps vous évoquiez la Hongrie et un certain nombre d'autres pays de l'Est de l'Europe qui sont dans, ou la Pologne, qui sont dans des attitudes parfois un petit peu fermées par rapport au sujet européen, mais il faut les sublimer, il faut aller de l'avant, parce qu'on ne pourra pas bâtir l'Europe sociale si on est uniquement dans une logique de club fermé à quelques États. Il faut avoir une ambition plus forte.
Il faut le faire, mais pour l'instant on ne le fait pas. On peut dire qu'aujourd'hui l'Europe sociale fait un petit peu du surplace aujourd'hui en 2021. On a l'impression qu'il y a beaucoup de déclarations. Vous avez cité énormément de choses. Il y a beaucoup de déclarations de bonnes intentions. Je peux citer notamment le socle européen des droits sociaux de 2017.
Oui, bien
sûr.
Il
attend toujours d'être traduit en acte. On est en 2021.
Oui, et en même temps, il y a aussi des actes concrets. Quand l'Union européenne met en place une facilité de 100 milliards d'euros pour soutenir les systèmes nationaux de protection sociale, pour faire en sorte que dans l'ensemble des pays, il y ait des mécanismes de réassurance chômage qui fonctionnent. Mmh. C'est colossal. 5 milliards d'euros, c'est pas l'épaisseur du trait. On évoque souvent les sommes que le président Biden met aujourd'hui sur la table. 5 milliards d'euros, c'est quand même assez important. Donc, on voit bien que l'Europe sociale, c'est pas uniquement des mots, des concepts et des volontés, c'est aussi des actes concrets. Je vous ai cité tout à l'heure, il y a au moins 10-15 directives importantes qui ont été adoptées ces dernières années. Donc, on voit que mais là, ce qui est compliqué, et je renvoie souvent à cette formule de Jean Monnet, l'Europe se fera dans les crises, elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. On peut parfois, dans la crise, oublier le volet social. Mais le volet social, il doit pas être isolé. Il doit irriguer toutes les politiques. Quand on parle de transition énergétique, on doit penser social. Quand on parle de politique de la santé, il faut bien entendu penser social. Donc, ce qui pourrait être enclenché à partir de Porto, c'est une vision transverse de la politique sociale et pas uniquement cloisonnée, affectée à une direction générale de la Commission européenne ou à des parlementaires spécialisés. Il faut bien entendu en faire un sujet majeur, parce que ce qui différencie notre zone économique par rapport peut-être à d'autres continents, c'est justement cette dimension sociale.
Alors, justement, la transition énergétique, vous l'avez évoqué, ça nous amène à parler, et on l'a brièvement évoqué pour le moment, le plan de relance européen qui a été adopté pour répondre à la crise du Covid. Est-il une avancée vers une Europe plus sociale? Alors, vous allez me répondre, mais d'abord, je voudrais que l'on écoute ce qu'en disait le président français Emmanuel Macron juste après l'adoption de ce plan de relance de 750 milliards d'euros. C'était le 21 juillet 2020. Et pour Emmanuel Macron, eh bien, c'était un jour historique.
Le plan de relance fondé sur cette solidarité européenne, c'est un changement historique de notre Europe et de notre zone euro. C'est la première fois que nous mettons en place cette capacité budgétaire commune à ce niveau-là, en la basant sur une capacité d'endettement commun pour des projets nouveaux et en dessinant la perspective de ressources budgétaires propres, additionnelles. C'est ce qui nous permettra de faire face aux défis social-économiques, mais aussi écologiques de notre Europe.
Michel Derdevet, c'est un tournant, selon vous, l'adoption de ce plan de relance de 750 milliards d'euros, comme le dit Emmanuel Macron ?
Ah ben c'est un tournant majeur, parce qu'il faut rajouter à ces 750 milliards les 1000 milliards qui sont prévus dans le budget de l'Europe pour 2021-2027. Donc au total, on met sur la table 1800 milliards d'euros.
C'est vers plus d'Europe sociale ?
C'est un effort sans précédent. Alors après le fléchage de ces 1800 milliards d'euros, bien entendu qu'ils doivent, de ma fenêtre, aller vers plus d'Europe sociale, mais dans le cadre d'un débat, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, dans lequel les partenaires sociaux sont associés pour voir comment on utilise au mieux, autour de quels sujets, autour de quels enjeux, autour de quelles priorités, cet argent est mobilisé. Et c'est là où il y a un vrai défi pour les semaines, les mois qui viennent, c'est pour agir vite, rapidement. Il faut que cet argent soit disponible très vite pour que la relance de l'économie européenne ne tarde pas et ne prenne pas des mois et des mois. Hein, mais oui, c'est un pas essentiel, le président de la République l'a rappelé, parce que l'Europe, jusqu'à l'an dernier, ne pouvait pas s'endetter. Elle a recouvré cette capacité. L'Europe va avoir des ressources nouvelles à travers le mécanisme d'ajustement carbone ou à travers une taxe sur le numérique. Donc, on a énormément de tabous budgétaires qui ont été levés à la faveur de la crise. Donc ça, c'est un point d'avancée majeur dans la construction européenne.
Mais finalement, ce sont les objectifs climatiques qui imposent l'agenda social à l'Europe ?
Oh, pas que. Les objectifs économiques, la crise, encore une fois, est tellement importante qu'on voit bien qu'il faut avancer, il faut changer le braquet et ne pas raisonner uniquement par une Europe à minima qui serait simplement une sorte de club dans lequel les États mettraient quelques sommes ici ou là.
Mais est-ce qu'on change de braquet ? Est-ce qu'on va changer ce paradigme ? Cela, selon vous ?
Les 1800 milliards, c'est pas mal. Vous savez, les observateurs ont beaucoup souligné les 2000 milliards que président Biden mettait sur la table pour relancer l'économie américaine. On n'est pas loin du tout de ces chiffres-là. Donc, l'Europe, dans une période de crise très compliquée à vivre, a su trouver l'énergie pour trouver ces moyens nouveaux. Et après, on va être dans la mise en œuvre, dans l'efficacité de ce plan de relance. Mais les 40 milliards qui vont arriver en France à partir de l'automne 2021, ça va aider l'économie française. Hein, et ça va, bien entendu, permettre d'enclencher toute une série de politiques dynamiques. Alors, vous évoquiez bien sûr la transition énergétique, mais il n'y a pas que. Il y a toute une série d'autres sujets sur lesquels on va pouvoir investir de manière plus efficace.
Alors, quels sont ces sujets justement prioritaires selon vous ? J'évoquais l'agenda de Porto, le sommet européen social qui s'ouvre demain.
Oui, Mais c'est un sommet essentiel. Il va falloir trouver, y compris des indicateurs alternatifs permettant de mesurer les progrès économiques, sociaux, environnementaux. Et puis, il faudra bien entendu se poser la question. Je vous l'évoquais tout à l'heure, mais la proposition de directive pour les salaires minimaux, elle est indispensable. Mmh. Il faut qu'on regarde tout ce qui peut participer de la réduction des inégalités en Europe.
Hein, mais par exemple, les salaires minimums, c'est intéressant. On va s'arrêter brièvement sur ce point. La Commission européenne a mis ce sujet sur la table en octobre dernier en disant à travail égal, salaire égal. Pour l'instant, il n'y a pas de décision qui a été prise. On est au mois de mai.
Attendez, là, vous parlez de l'égalité, pas des salaires minimaux. Hein.
L'égalité
de genre.
L'égalité de salaire.
Voilà, l'égalité de salaire. Oui, ça sera peut-être abordé, on verra. Hein. On verra ce qui se passera demain, après-demain, dans les deux journées de ce sommet de Porto. Je pense que c'est au menu des échanges. Je pense qu'un consensus peut se faire là-dessus. Je ne vois pas très bien quelles étapes pourraient bloquer. Et même s'il y a des réticences, on l'évoquait tout à l'heure, à l'est de l'Europe, je crois qu'il y a une majorité d'États qui, là-dessus, aujourd'hui, sont persuadés que c'est une belle cause et qu'il n'y a pas d'obstacle à poser à ce que cette égalité se réalise.
Il y a justement parmi les déclarations qui doivent être adoptées à Porto, une qui doit porter sur le capitalisme responsable. Alors ça, c'est intéressant parce que vous évoquiez le changement de braquet. Est-ce que capitalisme responsable, c'est pas un oxymore, donc deux mots finalement qui sont opposés, ou bien est-ce que on reste dans le capitalisme en l'adaptant à un capitalisme responsable? Est-ce que c'est ça?
Alors, oui, on revient un petit peu à la formule de François Mitterrand tout à l'heure. Moi, je préfère au terme de capitalisme responsable le terme d'économie sociale de marché. Nous sommes une économie, ça veut dire qu'il y a des règles du jeu dans une économie, il y a des règles financières qui sont incontournables, mais en même temps, ce qui particularise l'Europe, c'est la dimension sociale. Hein. Donc, économie de marché social ou économie sociale de marché me semble plus correct que capitalisme responsable, parce qu'on voit aujourd'hui que la dimension sociale, justement, elle monte et elle apparaît comme une sorte de pendant nécessaire. L'Europe, c'est un marché, mais ça n'est pas qu'un marché. L'Europe, c'est aussi quelque chose qui renvoie à la solidarité, aux échanges. On a vu apparaître ou réapparaître l'an dernier la notion de bien commun. C'est un débat qui devrait être nourri au plan politique ces prochains mois. Qu'est-ce qu'on qualifie de bien commun qui peut-être, à un moment donné, doivent être renvoyés en dehors des règles de jeu du marché ou du capitalisme. Ce sujet, on le voit émerger partout. Est-ce que la santé, les hôpitaux, l'enseignement participent d'une approche capitalistique? Ou est-ce qu'on est dans des domaines qui sont des enjeux clés pour la reconstruction du continent européen et donc avec un contenu social à nourrir?
Et pour accompagner ce « il faut hein, » que finalement vous dictez depuis le début de cette émission, il faut justement changer ce braquet, il faut aller vers plus d'Europe sociale, et on va, vous nous dites ce soir, vers plus d'Europe sociale. Je voudrais citer un sondage réalisé en fin d'année dernière concernant les citoyens européens. Une grande majorité, plus de 61%, approuve par exemple le partage de la dette publique. Est-ce que les dirigeants européens sont prêts à ce partage d'une dette publique européenne?
La preuve, puisqu'ils ont permis en juillet dernier à l'Europe de s'endetter pour le compte des États membres et donc de dégager le fameux volant de 550 milliards d'euros de l'instrument de relance. Donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose. Souvent en France, on voit les sujets européens avec beaucoup de crainte, mais quand on regarde les analyses des eurobaromètres et tout, on se rend compte qu'une majorité d'Européens sont favorables à un certain nombre d'initiatives nouvelles. Et donc, il ne faut pas se faire peur sur ce volontarisme qui pourrait être développé au niveau européen. Il y a derrière un appui des citoyens. Vous évoquiez tout à l'heure la transition énergétique. Plus de 70% des citoyens européens sont favorables à ce que des actions communes soient menées au niveau européen en matière de transition énergétique. Et donc, on ne voit pas de frein. Alors, c'est vrai que parfois...
Alors, parfois, on dit que le frein, c'est la montée des populismes. Rapidement, parce qu'il reste quelques secondes.
Et parfois, ces freins, ils sont parfois dans nos opinions publiques, et notamment en France, mais au niveau européen, on a véritablement de l'optimisme si on regarde ça de manière globale.
Eh bien, on va rester sur cette note optimiste, alors, en vue d'une Europe plus sociale. Merci beaucoup, Michel Derdevet.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt, président du think tank Confrontation Europe et de la Maison de l'Europe de Paris. Merci à vous de nous avoir écoutés ce soir. Éléonore Krenik à la préparation de cette émission, Hélène Avril à la réalisation. Merci à la documentation et à la sonothèque, comme chaque soir. Dans un instant, restez à l'écoute. Hein. Guillaume Nodin, le débat du jour. Guillaume Nodin s'interroge, l'unité du Royaume-Uni est-elle réellement menacée? Restez à l'écoute.
Priorité santé. Caroline Paré.